20. Travail humain, travail national. Briser les machines, repousser les marchandises étrangères, ce sont deux actes qui procèdent de la même doctrine. On voit des hommes qui battent des mains quand une grande invention se révèle au monde et qui néanmoins adhèrent au régime protecteur. Ces hommes sont bien inconséquents. Que reprochent-ils à la liberté du commerce ? De faire produire par des étrangers plus habiles ou mieux situés que nous des choses que sans elles nous produirions nous-mêmes ? En un mot, on l'accuse de nuire au travail national. De même, ne devrait-il pas reprocher aux machines de faire accomplir par des agents naturels ce qui sans elles serait l'œuvre de nos bras ? Et par conséquent, de nuire au travail humain ? L'ouvrier étranger mieux placé que l'ouvrier français est à l'égard de celui-ci une véritable machine économique qui l'écrase de sa concurrence. De même, une machine qui exécute une opération à un prix moindre qu'un certain nombre de bras et relativement à ses bras à un vrai concurrent étranger qui les paralyse par sa rivalité. Si donc il est opportun de protéger le travail national contre la concurrence du travail étranger, il ne l'est pas moins de protéger le travail humain contre la rivalité du travail mécanique. Aussi, quiconque adhère au régime protecteur, s'il a un peu de logique dans la cervelle, ne doit pas s'arrêter à prohiber les produits étrangers, il doit proscrire encore les produits de la navette et de la charrue. Et voilà pourquoi j'aime bien mieux la logique des hommes qui, déclamant contre l'invasion des marchandises exotiques, ont au moins le courage de déclamer aussi contre l'excès de production dû à la puissance inventive de l'esprit humain. Tel est monsieur de Saint-Chamond. Un des arguments les plus forts, dit-il, contre la liberté du commerce et le trop grand emploi des machines, c'est que beaucoup d'ouvriers sont privés d'ouvrage, ou par la concurrence étrangère qui fait tomber les manufactures, ou par les instruments qui prennent la place des hommes dans les ateliers. Du système d'impôts, page 438. Monsieur de Saint-Chamond a parfaitement vu l'analogie, disons mieux, l'identité qui existe entre les importations et les machines. Voilà pourquoi il proscrit les unes et les autres. Et vraiment, il y a plaisir à avoir affaire à des argumentateurs intrépides qui, même dans l'erreur, poussent un raisonnement jusqu'au bout. Mais voyez la difficulté qui les attend. S'il est vrai, a priori, que le domaine de l'invention et celui du travail ne puissent s'étendre qu'aux dépens l'un de l'autre, c'est dans les pays où il y a le plus de machines, dans le Lancastre par exemple, qu'on doit rencontrer le moins d'ouvriers. Et si au contraire on constate en fait que la mécanique et la main-d'œuvre coexistent à un plus haut degré chez les peuples riches que chez les sauvages, il faut en conclure nécessairement que ces deux puissances ne s'excluent pas. Je ne puis pas m'expliquer qu'un être pensant puisse goûter quelque repos en présence de ce dilemme. Où les inventions de l'homme ne nuisent pas à ses travaux comme les faits généraux l'attestent, puisqu'il y a plus des unes et des autres chez les Anglais et les Français que parmi les Hurons et les Cherokees, et en ce cas j'ai fait fausse route, quoique je ne sache ni où ni quand je me suis égaré. Je commettrais un crime de lèse-majesté si j'introduisais mon erreur dans la législation de mon pays. Ou bien les découvertes de l'esprit limitent le travail des bras, comme les faits particuliers semblent l'indiquer, puisque je vois tous les jours une machine se substituer à 20 à 100 travailleurs, et alors je suis forcé de constater une flagrante, éternelle, incurable antithèse entre la puissance intellectuelle et la puissance physique de l'homme, entre son progrès et son bien-être, et je ne puis m'empêcher de dire que l'auteur de l'homme devait lui donner de la raison ou des bras, de la force morale ou de la force brutale, mais qu'il s'est joué de lui en lui conférant à la fois des facultés qui s'entre-détruisent. La difficulté est pressante. Or, savez-vous comment on en sort ? Par ce singulier apoptème. En économie politique, il n'y a pas de principe absolu. En langage intelligible et vulgaire, cela veut dire « je ne sais où est le vrai et le faux, j'ignore ce qui constitue le bien ou le mal général, je ne m'en mets pas en peine, l'effet immédiat de chaque mesure sur mon bien-être personnel, telle est la seule loi que je consente à reconnaître. » Il n'y a pas de principe. Mais c'est comme si vous disiez « il n'y a pas de fait ». Car les principes ne sont que des formules qui résument tout un ordre de faits bien constatés.
Les machines, les importations ont certainement des effets. Ces effets sont bons ou mauvais. On peut à cet égard différer d'avis, mais quel que soit celui qu'on adopte, il se formule par un de ces deux principes. Les machines sont un bien ou les machines sont un mal. Les importations sont favorables ou les importations sont nuisibles. Mais dire « il n'y a pas de principe », c'est certainement le dernier degré d'abaissement où l'esprit humain puisse descendre. Et j'avoue que je rougis pour mon pays quand j'entends articuler une si monstrueuse hérésie en face des chambres françaises avec leur assentiment, c'est-à-dire en face et avec l'assentiment de l'élite, de nos concitoyens. Et cela pour se justifier de nous imposer des lois en parfaite ignorance de cause. Mais enfin, me dira-t-on, détruisez le sophisme. Prouvez que les machines ne nuisent pas au travail humain, ni les importations au travail national. Dans un ouvrage de la nature de celui-ci, de telles démonstrations ne sauraient être très complètes. J'ai plus pour but de poser les difficultés que de les résoudre et d'exciter la réflexion que de la satisfaire. Il n'y a jamais pour l'esprit de conviction bien acquise que celle qu'il doit à son propre travail. J'essayerai néanmoins de le mettre sur la voie. Ce qui trompe les adversaires des importations et des machines, c'est qu'ils les jugent par leurs effets immédiats et transitoires au lieu d'aller jusqu'aux conséquences générales et définitives. L'effet prochain d'une machine ingénieuse est de rendre superflu pour un résultat donné une certaine quantité de main-d'œuvre. Mais là ne s'arrête point son action. Par cela même que ce résultat donné est obtenu avec moins d'efforts, il est livré au public à un moindre prix. Et la somme des épargnes ainsi réalisées par tous les acheteurs leur sert à se procurer d'autres satisfactions, c'est-à-dire à encourager la main-d'œuvre en général, précisément de la quantité soustraite à la main-d'œuvre spéciale de l'industrie récemment perfectionnée. En sorte que le niveau du travail n'a pas baissé, quoique celui des satisfactions se soit élevé. Rendons cet ensemble d'effets sensibles par un exemple. Je suppose qu'il se consomme en France 10 millions de chapeaux à 15 francs. Cela offre à l'industrie chapelière un aliment de 150 millions. Une machine est inventée qui permet de donner des chapeaux à 10 francs. L'aliment pour cette industrie est réduit à 100 millions en admettant que la consommation n'augmente pas. Mais les autres 50 millions ne sont point pour cela soustraits au travail humain. Économisés par les acheteurs de chapeaux, ils leur serviront à satisfaire d'autres besoins et par conséquent à rémunérer d'autant l'ensemble de l'industrie. Avec ses 5 francs d'épargne, Jean achètera une paire de souliers, Jacques un livre, Jérôme un meuble, etc. Le travail humain pris en masse continuera donc d'être encouragé jusqu'à concurrence de 150 millions. Mais cette somme donnera le même nombre de chapeaux qu'auparavant, plus toutes les satisfactions correspondant aux 50 millions que la machine aura épargnés. Ces satisfactions sont le produit net que la France aura retiré de l'invention. C'est un don gratuit, un tribut que le génie de l'homme aura imposé à la nature. Nous ne disconvenons pas que, dans le cours de la transformation, une certaine masse de travail aura été déplacée. Mais nous ne pouvons pas accorder qu'elle aura été détruite ou même diminuée. De même quant aux importations. Reprenons l'hypothèse. La France fabriquait 10 millions de chapeaux dont le prix de revient était de 15 francs. L'étranger envahit notre marché en nous fournissant les chapeaux à 10 francs. Je dis que le travail national n'en sera nullement diminué, car il devra produire jusqu'à concurrence de 100 millions pour payer 10 millions de chapeaux à 10 francs. Et puis il restera à chaque acheteur 5 francs d'économie par chapeau,
ou au total 50 millions qui acquitteront d'autres jouissances, c'est-à-dire d'autres travaux. Donc la masse du travail restera ce qu'elle était, et les jouissances supplémentaires, représentées par 50 millions d'économies sur les chapeaux, formeront le profit net de l'importation ou de la liberté du commerce. Et il ne faut pas qu'on essaie de nous effrayer par le tableau des souffrances qui, dans cette hypothèse, accompagnerait le déplacement du travail. Car si la prohibition n'eût jamais existé, le travail se serait classé de lui-même selon la loi de l'échange, et nul déplacement n'aurait eu lieu. Si, au contraire, la prohibition a amené un classement artificiel et improductif du travail, c'est elle, et non la liberté, qui est responsable du déplacement inévitable dans la transition du mal au bien. À moins qu'on ne prétende que, parce qu'un abus ne peut être détruit sans froisser ceux qui en profitent, il suffit qu'il existe un moment pour qu'il doive durer toujours.